chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Victor Casbecq, de Saint-Pétersbourg, est à Versailles, à la cour, où il s'apprête à dîner en compagnie du roi, du tsar et de Marie-Angélique, la jolie duchesse. Force est d'admettre que Louis XIV a joué un rôle moteur dans bien des domaines, y compris celui de la nourriture. Son siècle apparaît en cuisine comme une époque charnière, un moment où l'art culinaire français commence à trouver sa véritable personnalité. Exploitant à bon escient l'évolution des techniques, la préparation d'aliments jusque-là inconnus et des associations inattendues, les maîtres queux font exploser leur créativité et divulguent leur science neuve. Pour l'heure, le souper s'éternisait quelque peu. D'abord, l'on avait eu le service des potages. Deux potages, qui étaient en fait de la viande et des légumes cuits dans un bouillon, servis avec du pain. D'ailleurs, on servait au roi une soupe avec le double d'épices de ce qui se faisait ordinaire. Il en était gourmand. Puis était arrivée la reine des volailles, une poularde aux truffes noires de Provence, qui avait enchanté tout le monde, et tout particulièrement Victor, qui avait un appétit proportionnel à sa haute taille. Ensuite arrivaient les rots, qui étaient une succession de plats comportant toutes sortes de viandes et de salades rafraîchissantes. Mais revenons sur la fameuse poularde de Bresse. Elle avait cuit 2h30, peut-être même 3h, à 85 degrés, dans un bouillon parfumé par les oignons, les aulques et les diverses échalotes, poireaux, carottes, céleri et les petits piments, après avoir été contisée, c'est-à-dire qu'on avait glissé, avec précaution, vous l'imaginez, sous sa peau de belles lamelles de la précieuse truffe noire de Rabas. Elle avait été farcie avec une mousseline truffée, faite de blanc de volaille haché, de moult blanc d'œuf, de crème fraîche, d'une pointe de piment encore et de quelques râpures de muscade et deux morceaux de truffe. La sauce qui la nappait était faite de farine, de bon beurre normand et encore et toujours de crème fraîche. Les conversations cessèrent d'un coup et un ange passa. Tandis que les convives dégustaient la merveille, tendre, moelleuse à souhait et chargée de saveurs exquises.
Thank you.
Marie-Angélique ne pouvait résister et dînait de fort bonne humeur. Elle tentait de protéger la fragile soie de sa robe coûteuse et dégustait la poularde en tout petits morceaux, plantés tout au bout de sa fourchette. Ce nouvel instrument arrivait à la cour avec le grand-père du roi Henri IV. Tellement utile pour porter élégamment jusqu'à ses lèvres roses les petites bouchées délicieuses. Victor et Angélique se régalaient décidément de concert et échangèrent un regard gourmand, accompagné d'un sourire qui, pour être furtif, n'en était pas moins tendre. Leurs yeux souriaient aussi, pleins de promesses inavouées. Ils appréciaient déjà les mêmes choses. Les valets, derrière les convives, faisaient le service des boissons. Pour le service des soupers privés, le vin était conservé à cet effet dans le sous-sol de la petite cour du roi. Les caves principales se trouvaient à Sèvres, où vieillissaient plus de 50 000 bouteilles. Elles sont ensuite transportées au grand commun. Le vin de Champagne constitue la plus importante part des réserves gérées par les services de la bouche du roi, même si, comme le rappellent les mémoires du duc de Luynes, Louis XV n'en boit plus à partir de 1737. Ses tables continuent toutefois d'en être abondamment pourvues. L'inventaire de 1782 révélera l'importance des crus de Bourgogne ou du Languedoc, de Vauvert, de Frontignan, de Grave, de Sauternes, de Chablis. Le vin de Fronsac était très souvent servi aux cavaliers, partageant la table du roi. D'après le duc de Saint-Simon, qui relatait les faits et gestes du roi et les événements, petits ou grands, de la cour au jour le jour, Louis faisait montre d'un solide appétit et il adorait les salades, toutes les salades. Il les assaisonnait généreusement d'estragon, de pimpronelle, de basilic et il les appréciait aussi parsemées de violettes. En France, la gastronomie est très liée à la cour royale. Comme pour les vins, le foie gras ou d'autres aliments de qualité, le pouvoir central n'est pas étranger à la réputation des fromages et donc à leur perfectionnement. Il suffit qu'un Louis XIV sans goût de la Romanée pour qu'un continent, ce vin, acquiert une réputation hors du commun et qu'il se bonifie jusqu'à la mériter. Il suffira qu'un Louis XVI se régale du foie gras de Strasbourg et en fasse présent à tous les rois d'Europe pour que ce produit local devienne un symbole national. Le duc de Saint-Simon n'était d'ailleurs pas le seul à commenter le bel appétit du roi. Sa belle-sœur, la princesse Palatine, raconte qu'elle avait vu Louis XIV manger 4 assiettes de potage, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, 2 grandes tranches de jambon, du mouton au jus, 1 assiette de pâtisserie et des fruits, et ça, mais je ne le crois guère, suivi d'œufs durs. Mais Saint-Simon précise tout de même qu'il ne mangeait rien entre les repas. On le comprend. Sur la longue table, il y avait maintenant des gâteaux, des tartes aux fruits et tous les meilleurs fruits soignés, élevés par Monsieur de la Quintigny en son potager, des figues, des prunes. Le cuisinier, le sieur Massialo, cuisinier royal et bourgeois, avait confié à la duchesse sous le manteau sa recette de crème de pistache, dont toutes les dames étaient friandes. Il faut prendre des pistaches bien échaudées, l'épiler dans le mortier, avec de l'écorce de citron confit et un peu d'écorce de citron vert. Le tout étant bien pilé, il faut prendre une pincée ou 2 de farine avec 3 ou 4 jaunes d'œufs. Délayez-le ensemble dans une casserole de la grandeur de votre plat et y mettez du sucre en proportion, y versant ensuite le lait petit à petit, un peu plus qu'une chopine. Prenez ensuite vos pistaches pilées et les ayant délayées avec le reste, passez le tout dans l'étamine 2 ou 3 fois. Après, faites cuire la crème et quand elle sera cuite, versez-la dans son plat et servez-la froide pour entremets. Si vous la voulez servir chaude après qu'elle sera froide, vous y pouvez faire une glace blanche dessus et la mettre dans le four à sécher la glace. La vie était douce à Versailles. Au mois de juin 1663, le gazetier Loré rime ses petits vers. Leurs majestés vont à Versailles, château charmant, tranquille, et quoi? où les chasses, les exercices, les concerts, les banquets friands, les jeux et spectacles riants, comme passe-temps nécessaire, succèdent aux soins des affaires. Et pour finir cet exquis repas, on dégusta le vin des dieux, élaboré par le confiturier François en 1650, dont je ne résiste pas à vous confier la recette. Pelez des pommes rainettes et des citrons, autant que l'un que de l'autre. Les coupez par rouelles. Ayez un bassin ou plat. Faites un lit de pommes et de citrons. Et mettez dessus un lit de sucre en poudre et continuez selon la quantité que vous en désirez faire. Et mettez de bon vin par-dessus, jusqu'à ce qu'elle trempe. Les couvrir et les laisser environ 2 heures infuser. Et la passer à la chausse, comme l'Hippocrase. Ce sera tout pour ce soir. Victor et Marie-Angélique se retrouveront demain ou après-demain, au hasard d'une promenade, dans l'un des bosquets du parc. Heureux hasard, qui leur permettrait de deviser gaiement au rayon du soleil couchant. Marie-France Guimaroche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.